Chapitre 3e, ses idées générales. Paragraphe 1er. Nos idées générales sont l'expression de notre caractère. Cela est vrai pour tous, pour Chateaubriand plus que pour personne. Nous naissons à la vie intellectuelle avec les idées de notre temps. Mais selon notre complexion, où nous nous y tenons, où nous les modifions dans le sens de notre humeur, ou très vite nous rompons en visière avec elles. Ce dernier cas a été celui de Chateaubriand. À Paris, en 1790, il pense comme ceux qui l'entourent, comme Larpe, comme Guinguenet, comme Chamfort. À Londres, en 1795, il en est déjà bien loin. Grand dégoûté de toute chose, il n'a pas été longtemps engoué de la philosophie du XVIIIe siècle. Déjà sceptique, il n'est pas pour donner avec ardeur dans une philosophie très tranchante, très assurée, très téméraire, et dont le caractère général est une grande intrépidité de dogmatisme et une grande candeur d'affirmation. Ayant un fond de pessimisme, il devait s'étonner d'une doctrine dont le penchant habituel est la croyance à la perfectibilité humaine et dont la dernière expression a été la théorie du progrès indéfini de Condorcet. Très vite, ses idées lui parurent prodigieusement naïves. Il n'était lui rien moins que naïf, peu doué d'espérance consolante, peu croyant. Et si à cette date il ne croyait pas à la religion chrétienne, ce n'était pas pour croire à la religion de la perfection humaine. C'est cette idée, la seule du XVIIIe siècle, qui soit vraiment grande, et la seule qui ne soit pas négative, qui le préoccupe et qui l'irrite. Il écrit un livre pour la réfuter. Cela est bien de lui. Émigré, misérable, sans pain, en face de la révolution triomphante, de Voltaire et Rousseau, passé Dieu, il prend corps à corps le XVIIIe siècle et veut le convaincre de puérilité. C'est dans cet esprit qu'il fait son essai sur les révolutions anciennes et modernes. Ce livre est un chaos. Rapprochement forcé, histoire torturée, digression vertigineuse, composition nulle. De plus, comme il contient des pages antichrétiennes et que l'auteur l'a réfuté depuis, on l'a pris, faute de le lire, pour un ouvrage d'inspiration voltairienne. C'est à peu près le contraire. L'idée générale qui s'en démêle est qu'il est bien inutile de faire quelque révolution que ce soit, le progrès n'existant pas, le désir d'amélioration étant une duperie de notre nature et une chimère de notre esprit, l'humanité passant toujours par les mêmes phases d'espérance, de déception, d'illusions nouvelles et de nouveaux découragements, et croyant marcher parce qu'elle s'agite. La conclusion ne laisse pas de doute. La voici en résumé. Quel sera l'avenir ? Le christianisme va s'éteindre, aucune religion ne le remplacera. Des lumières au lieu de religion ? Peut-être, mais je n'y crois pas. Ce qui est probable, c'est que, déchirées intérieurement par des révolutions partielles, les nations retourneront tour à tour à la barbarie. Durant ces troubles, quelques-unes d'entre elles, moins avancées dans la corruption et les lumières, s'élèveront sur les débris des premières pour devenir à leur tour la proie de leurs dissensions et de leurs mauvaises mœurs. Alors, les premières nations tombées dans la barbarie en émergeront de nouveau et reprendront leur place sur le globe, ainsi de suite, dans une révolution sans terme. Scepticisme politique et pessimisme social, voilà où en est Chateaubriand vers 1795, par esprit de contradiction aux idées contemporaines. Il ne faut pas croire qu'il se soit jamais éloigné autant qu'il lui a semblé à lui-même, et de cette conception et de cet esprit. Dans les mémoires d'outre-tombe, quand il revient sur sa vie, il retrouve très bien en lui cette disposition première. Mon esprit fait pour ne croire à rien, pas même à moi, fait pour dédaigner tout, grandeur, misère, peuples et rois, a nonobstant été dominé par un instinct de raison qui lui commandait de se soumettre à tout ce qu'il y a de reconnu beau, religion, justice, humanité, égalité, liberté, gloire. Voilà le passage du Chateaubriand sceptique et pessimiste au Chateaubriand chrétien. Le beau l'attire. Il l'attirait au christianisme. Il est devenu chrétien le jour où il s'est avisé des beautés de la religion chrétienne, titre primitif du génie. Il a été religieux par goût d'artiste. Ce goût pouvait le conduire à toute autre chose. C'est bien ce qui est arrivé en effet, et nous le verrons assez. Mais pour le moment, il voit une beauté merveilleuse dans le christianisme. Il y court. À cette époque, c'est une découverte. Tout le XVIIIe siècle a déclaré le christianisme ridicule, inélégant, grossier. Raison de plus, découvrir une forme nouvelle du beau et continuer à prouver au XVIIIe siècle qu'il ne sait ce qu'il dit, double allégresse. Mais le scepticisme, le pessimisme. Remarquez que rien ne les empêche de rester comme au-dessous de la nouvelle croyance, et en effet ils y sont restés, et que même ils la peuvent soutenir. C'est le dogmatisme rationaliste du XVIIIe siècle, la foi dans le génie humain qui est la vraie négation du christianisme et exclusif de lui. Mais le christianisme s'accommode très bien du scepticisme comme d'un découragement qu'il prépare et du pessimisme comme d'une vue générale des choses qu'il complète. Chateaubriand a pu croire, et il l'a un peu cru, qu'il avait passé, pour arriver au christianisme, par le chemin de Pascal. Donc, point de véritable obstacle. Un vif élan d'imagination séduite vers une beauté entrevue, le ragoût du paradoxe par surcroît. Des raisons de sentiment, enfin, qui lui viennent de sa mère et d'une de ses sœurs mortes en pleurant sur ses erreurs. C'en était assez pour ravir ce génie ardent et mobile et le jeter à des voies nouvelles. Ses inclinations générales de sa pensée, il ne s'en est jamais départi. Sa répulsion à l'endroit du XVIIIe siècle, nous la retrouvons dans ses théories sociales, dans ses considérations religieuses, dans ses idées littéraires. Très souvent, le génie du christianisme se tourne en pamphlet contre l'esprit encyclopédiste, et à le prendre au point de vue des idées, il n'est au fond que cela. À chaque instant, et voilà la religion que l'on trouve œuvre de barbares et entretien de petits esprits. Tous ces jugements littéraires vont à montrer que le XVIIIe siècle n'a rien entendu à la poésie, ce qui ne laisse pas d'être vrai. Voltaire le gêne, Rousseau l'irrite. Montesquieu seul lui paraît grand, ce qui peut se soutenir. Il a toujours ri de cette impétuosité d'assurance d'un siècle où l'on ne doute de rien, hors de l'existence de Dieu. Même dans ses œuvres d'imagination, il poursuit son ennemi. Un orateur des martyrs, dans le livre XVI, est un composé curieux de Voltaire, de Rousseau, de Dupuis et de Saint-Just, et ramasse les excès de leur doctrine dans un discours tourné en parodie qui est une satire atroce. Son pessimisme s'étale fort à l'aise, sous le couvert d'une religion à laquelle il ne déplaît pas comme introduction à elle-même. Chose à remarquer, les hommes de son temps étaient à la fois si peu pessimistes et si peu chrétiens qu'ils reprochent avec candeur des traits d'amertume qui ne sont nouveaux que parce qu'ils sont anciens, qui sont classiques. Et il relève comme monstrueux chez lui ce qu'il lise sans sourciller dans La Bruyère. Chateaubriand fait dire au père Aubry dans Atala « Que parlais-je des amitiés de la terre? Voulez-vous en connaître l'étendue? Si un homme revenait à la lumière quelques années après sa mort, je doute qu'il fût revu avec joie par ceux-là même qui ont donné le plus de larmes à sa mémoire, tant on forme vite d'autres liaisons, tant l'inconstance est naturelle à l'homme, tant notre vie est peu de chose, même dans le cœur de nos amis. » Sur quoi l'abbé Morlaix se révolte. « Nous avons aujourd'hui tant de sensibilité, » réplique Chateaubriand avec son amertume ordinaire, et il proteste que ce qu'il a dit là n'est que la vérité. Il aurait pu citer les caractères qui ont été écrits par un homme très sensible et très chrétien. Il n'y a guère d'autre raison de ne s'aimer plus que de s'être trop aimé. Il devrait y avoir des sources inépuisables de douleur pour de certaines pertes. On pleure amèrement, on est sensiblement touché, mais l'on est ensuite si faible ou si léger que l'on se console. Cesser d'aimer preuve que l'homme est borné et que le cœur a ses limites. Chrétien, du moment qu'il l'est devenu, il l'a toujours été, de quelle manière, nous le verrons, mais sans oubli. Il a beaucoup aimé, surtout vers la fin, à se donner comme un homme non seulement désabusé, mais qui n'a jamais été dupe, et n'a jamais rencontré chose assez grave pour se donner la peine d'y croire. Il fait toujours une réserve pour la religion. Sans doute il l'aime un peu comme un de ses ouvrages, mais l'accent est sincère, l'insistance significative. Et n'oublions pas que François de Chateaubriand a bien trop d'orgueil pour gauchir par hypocrisie ou même par convenance. Ses idées politiques sont d'un homme né aristocrate, devenu de plus en plus dédaigneux, et qui a dans tout le XVIIIe siècle un ennemi personnel. Il n'aime pas la démocratie, le pire des gouvernements, surtout quand il faut combattre un ennemi puissant et qu'une volonté unique est nécessaire au salut de la patrie. Ce qu'il déteste surtout dans l'État populaire, c'est qu'il lui paraît affaiblir la nation dans la lutte contre l'étranger, pensée qui n'a rien d'original et qui a été bien souvent exposée depuis, mais qui est curieuse à sa date, au lendemain des guerres de la Révolution française. Il y tient. C'est à cette cause qu'il attribue la décadence d'Athènes, consommée selon lui depuis Egos Potamos. Il n'aime pas la démocratie parce qu'elle est naturellement ennemie de l'expansion au dehors et de la politique conquérante. Une nation, selon lui, doit conquérir. Les Spartiates se sont trompés. Ils pouvaient asservir la Grèce et ne l'ont pas fait. Ils ont eu tort. La Grèce conquise eût été leur rempart. Pouvant agrandir leur patrie et ne tenant qu'à la défendre, ils l'ont perdue. Ceci a bien l'air d'être la vraie pensée de Chateaubriand et non un plaidoyer. C'était écrit avant la guerre d'Espagne. Il trouve ridicule l'idée du contrat social. La politique par abstraction lui est odieuse. Bien avant d'autres, il a voulu montrer et il a exposé, un peu confusément mais avec force, dans l'essai, que c'est l'esprit classique français, entendez celui du XVIIIe siècle, tout d'abstraction et de logique, qui a fait la Révolution française. Il aime peu la liberté politique. Une note de l'Itinéraire fait soupçonner que l'esclavage, le vrai, celui de l'Antiquité, ne lui est pas odieux. Comme en exprimant cette idée, il la retire, je cite le passage intégralement. Mais ne semble-t-il pas que la réserve finale sente un peu la rhétorique et soit moins sincère que le reste? S'il faut dire tout ce que je pense, je crois que ce système est une des causes de la supériorité que les grands hommes d'Athènes et de Rome ont sur les grands hommes des temps modernes. Il est certain qu'on ne peut jouir de toutes les facultés de son esprit que lorsqu'on est débarrassé des soins matériels de la vie. Et l'on est totalement débarrassé de ces soins que dans les pays où les arts, les métiers et les occupations domestiques sont abandonnés à des esclaves. Il est encore certain que l'habitude du commandement donne à l'esprit une élévation et aux manières une noblesse que l'on ne prend jamais dans l'égalité bourgeoise de nos villes. Mais ne regrettons point cette supériorité des anciens, puisqu'il fallait l'acheter aux dépens de la liberté humaine, et bénissons à jamais le christianisme qui a brisé les fers de l'esclave. Dans la pratique, à travers les vicissitudes et les variations dont est faite la vie de tout homme politique, il a toujours été l'homme de l'ancienne cité, comme il dit, c'est-à-dire de l'ancien régime. Il professe constamment la théorie du gouvernement mixte, en élève de Montesquieu, mais toujours en la faisant remonter, non au XVIIIe siècle, ce qui lui déplairait, mais à l'ancienne monarchie, qui, avec son équilibre des trois ordres, est, selon lui, le modèle même de cette forme de constitution. Il n'a énergiquement, constamment surtout, défendu aucune liberté, si ce n'est la liberté de la presse, ce qui peut tenir à ce qu'il était journaliste. À tout prendre, comme presque tous les artistes, et comme la plupart des hommes qui se croient nés pour commander, son secret idéal est encore le despotisme intelligent. Pessimiste chrétien, sceptique sauf à l'endroit du beau et de la religion parce qu'elle est belle, aristocrate et artiste, il a pratiqué à peu près toutes les manières de dédaigner les hommes et d'aimer les belles choses, trouvant d'ailleurs dans son goût pour le beau une raison très légitime de s'aimer lui-même.